Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. Vous savez, depuis le début de l'année, ou bien depuis le mois d'octobre, je vous avais partagé cette thématique principale sur l'année, à savoir de revoir nos fondements. Et j'ai apporté plusieurs séries. On a commencé par « Nous sommes l'Église ». On parlait de ce que Christ bâtit son Église et que nous sommes son Église. Ensuite, je parlais de ce que nous sommes des témoins. Et depuis le mois de janvier, on parlait de « Nous sommes une famille ». Et pendant 2 mois, on a abordé le fait que nous sommes une famille que Dieu bénit, une maison bénie, dont Dieu bénit par des couples. On a parlé de la bénédiction de Dieu au travers des couples, au travers des familles, au travers de notre travail, au travers de nos finances. Et on a abordé tous ces aspects-là. Et dimanche dernier, Daniel nous parlait aussi de comment est-ce que nous sommes bénis lorsque nous ne jugeons pas et lorsque nous ne portons pas de jugement, mais plutôt que nous sommes une bénédiction. Je vous invite vraiment à regarder, à suivre et à méditer ces messages-là au fur et à mesure. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série aussi avec vous. Et moi, j'ai intitulé le nom de cette série « Entrer dans les projets de Dieu ». Comment entrer dans les projets de Dieu ? Et je vais aborder ce sujet sur plusieurs messages, mais au travers principalement de l'étude du livre de Josué. Aujourd'hui, je vais aborder certains éléments beaucoup plus liés au fondement, mais je veux qu'on passe un peu de temps pour savoir comment est-ce qu'on entre réellement dans les projets de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous permet de passer d'une prophétie à la réalisation d'une prophétie? Comment est-ce qu'on passe d'un rêve à la réalité? Comment est-ce qu'on passe d'un projet que Dieu nous a donné, d'une parole qu'on a reçue de Dieu, d'une saison, d'une promesse que Dieu nous a donnée, et comment est-ce qu'on commence à la vivre de manière quotidienne et de manière réelle et permanente? Et c'est ce qu'on va voir ensemble au travers de plusieurs messages. Et je vais commencer aujourd'hui par cette thématique, comment est-ce que Dieu nous donne d'entrer dans ses projets à lui? Et il n'y a rien de mieux, ou plusieurs passages, mais rien de mieux que le livre de Josué. C'est un livre assez particulier, un livre que je trouve extraordinaire, parce que vous savez, après près de 40 années dans le désert, de promesses de Dieu, d'attente de la venue du Messie, ou de la terre promise plutôt, de l'entrée dans la belle terre de Canaan, après 40 années, Moïse va s'en aller et Dieu va conduire le peuple d'Israël à entrer dans les promesses de Dieu et à entrer dans les projets qu'il avait préparés depuis très très longtemps. Et durant ce message-là, ce que je voudrais que Dieu puisse vous communiquer, c'est comment rentrer dans les projets de Dieu pour votre vie, pour votre famille, pour votre travail, pour vos enfants, les promesses que Dieu a prévues depuis très longtemps. Comment commencer à rentrer dedans et à les vivre de manière concrète et de manière pratique? Et quand on regarde le livre de Josué, et on aura le temps de rentrer beaucoup plus en détail dans ce passage-là, ou bien dans ce livre-ci, on se rend compte que de manière globale, il est divisé en 3 parties, le livre de Josué. Une première partie, c'est une partie sur la conquête de Canaan, du chapitre 1 au chapitre 12. On va voir comment Dieu va amener le peuple d'Israël à entrer dans le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Et du chapitre 13 au chapitre 22, on va parler de la répartition du territoire aux 12 tribus, sachant qu'il y a certaines tribus qui n'auront pas le territoire parce que la tribu des Lévites n'était pas censée avoir de territoire. Et après, du chapitre 23 au chapitre 24, il leur parle beaucoup plus ensuite de la fin de Josué. Mais on entrera beaucoup plus en détail de ces passages-là. Mais je pense que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Dieu a un projet pour ta vie, peu importe l'âge que tu as. Si tu as 12 ans, en principe tu es à l'école du dimanche, mais si tu as 12 ans ou si tu as 72 ans, ou même plus, Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et tant que nous sommes encore sur terre, il y a encore des choses qu'il veut faire au travers de nous. Amen. Si tu es encore ici sur terre et que tu as déjà donné ton cœur au Seigneur, l'une des raisons pour lesquelles tu es encore là, parce qu'au final, là-haut c'est mieux, même si on n'est pas tous pressés d'y aller, là-haut c'est mieux. Mais si on est encore là, c'est parce qu'on a encore des choses à faire. Et pour les faire, Dieu nous donne des clés, des moyens, comment on peut y entrer. Malheureusement, beaucoup passent à côté des projets de Dieu pour leur vie. Et ce que Dieu veut nous communiquer au travers de ces messages, c'est comment y rentrer réellement. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a des projets pour ta vie. Il veut que tu y entres. Parce que malheureusement, vous vous rendez compte que Dieu peut avoir des projets pour nous, mais on n'y rentre pas. Vous savez que le peuple d'Israël, il n'y en a que deux des adultes. Il n'y en a que deux des adultes, Josué et Caleb, qui vont sortir d'Égypte et qui vont rentrer dans la terre promise. La majorité de ceux qui étaient adultes, c'est plus de 20 ans puisqu'ils faisaient un sondage, eux ne vont pas entrer dans la terre. Pourtant, ils vont vivre la grâce de Dieu. Ils vont voir les miracles de Dieu. Ils vont voir la main de Dieu. Ils vont manger la manne dans le désert. Ils vont vivre des choses extraordinaires. Ils vont voir la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ils ne vont pas y entrer. Mais nous, ne voulons pas faire partie de ceux qui passent à côté des projets de Dieu pour leur vie. Nous voulons faire partie de ceux qui entrent dans les projets de Dieu. On ne veut pas passer du temps dans le désert. On veut rentrer dans la terre promise. Amen. Et je vous invite à lire avec moi Josué, on va lire tout le chapitre 1 et on va mettre ce matin les fondements. Parce qu'après, on abordera les aspects beaucoup plus pratiques, mais on va mettre quelques fondements liés à cela. Josué, chapitre 1. On va lire tout le chapitre. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour rentrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Verset 10, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le champ, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, qu'ils soient ainsi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-là du Jourdain à l'est. Verset 16, ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéissons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu la bénisses et que par-dessus tout, tu nous parles au travers d'elle. Amen. Tout le premier chapitre nous parle du passage de saison, d'un changement de saison en particulier. Comment est-ce que Moïse est mort et maintenant Dieu conduit le peuple d'Israël dans une nouvelle saison de leur vie, une nouvelle saison de leur chemin avec Dieu, il les fait entrer dans la terre promise. Et comme je vous le disais en introduction, on voit comment est-ce que Dieu permet à un peuple d'entrer dans les projets qu'il a prévus pour eux. Mais ce matin, comme je vous le disais, je vais aborder avec vous quelques éléments de fondement, les fondamentaux. Et on les découvre dans ce chapitre 1. Ces fondamentaux, ce sont les éléments de base qu'on doit développer et qu'on doit acquérir, qu'on doit posséder pour que durant tout le chemin, Dieu soit avec nous. Pour que durant tout le chemin, Dieu prenne soin de nous. Parce que même s'il y a des aspects pratiques qu'on abordera dans les prochains messages, ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est d'abord que certains éléments, peu importe la saison, que ce soit au travers de ton travail, dans ton couple, dans ta famille, on vit tous différentes saisons. On vit tous des saisons sur le plan familial, sur le plan de nos études, sur le plan de notre église, sur le plan de notre ministère, peu importe, on vit tous de différentes saisons. Et peu importe les saisons qu'on vit, peu importe ce qu'on traverse, Dieu veut mettre en base avec nous, Dieu veut voir quelques fondements qui sont importants et qui sont capitaux. Moi, j'en ai identifié 7 principalement. Et on va les parcourir au travers de ce premier chapitre de Josué qu'on a lu ensemble. Le premier élément qui est important de noter, c'est qu'il s'agit des projets de Dieu et non pas de nos projets à nous. Il s'agit des projets de Dieu et non pas de nos projets. Il est dit au verset 1, au verset 2 plutôt, Dieu va parler, il dit « Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que moi, l'Éternel, je donne aux enfants d'Israël. » C'est important de réaliser que on parle des projets de Dieu. On ne parle pas de nos envies et de nos besoins, et de nos satisfactions, c'est que c'est Dieu qui est à l'initiative. C'est Dieu qui déclenche les choses. C'est Dieu qui est le momentum en particulier. C'est Dieu qui a un projet pour nos vies, qui a un plan pour nos vies, et qui décide de nous faire entrer dans ce plan-là. Et il s'agit des projets que Dieu a établis depuis des années, longtemps à l'avance, avant que tu ne naisses, quand tu t'en crois dans le ventre de ta mère, comme Dieu parle au prophète Jérémie, il avait des projets pour toi. La Bible nous dit des projets de paix et non de malheur. Dans ce passage, Dieu parle aux Juifs qui sont en exil à Babylone, et au travers du prophète Jérémie, il dit, même si vous y êtes là, Dieu a néanmoins des projets de paix et non de malheur pour vous. Il est important de se dire, Seigneur, tu as des projets pour ma vie. Et je voudrais te rappeler ce matin, tu n'es pas le fruit du hasard. Ta vie n'est pas juste un aléa, mais Dieu a un projet particulier pour toi. Et il veut te faire entrer dans ses projets à lui. Vous savez, c'est Dieu qui a pris l'initiative d'appeler Abraham et de le mettre en route vers le pays qu'il avait promis. C'est Dieu qui va mettre également en route Isaac, puis Israël, puis Joseph, et maintenant, puis au travers de Moïse et avec Josué, c'est Dieu qui décide qu'aujourd'hui, je vais te faire entrer dans une saison. C'est Dieu qui bâtit son église, c'est Dieu qui la conduit dans des saisons en particulier. Et Dieu, c'est celui qui prend l'initiative. Et quand c'est Dieu qui est à l'auteur, c'est Dieu qui s'engage et qui met son sceau pour l'accomplir. Parce que si c'est lui qui est garant, si c'est lui qui prend l'initiative, alors Dieu veillera à ce que son projet s'accomplit. Et c'est important de réaliser que tout ce que je vis, tout ce que je fais, ma vie, Paul dira, peu m'importe ma vie. Je veux simplement gagner Christ et tout ce qu'il a prévu pour moi. Et si je réalise que ma famille, Dieu veut ma famille, Dieu veut le bonheur de ma famille, Dieu veut le bonheur de mon travail. Dieu veut le bonheur de mes finances. Dieu veut le bonheur de ma marche avec lui. Et quand on sait que c'est Dieu qui le veut, alors Dieu pourvoit ce qui est nécessaire pour l'accomplir. Et c'est important de réaliser que Dieu ne s'engage pas dans nos projets à nous, mais dans ses projets à lui. Dieu ne sera pas garant de tes envies et de tes besoins. mais il sera garant de ses projets et de sa direction. Et ça, c'est quelque chose qui est capital dans notre marche avec Dieu. Et Jésus dira, je ne suis pas là pour faire ma propre volonté, mais uniquement celle de mon Père. Et c'est important de se repositionner dans cette dimension. On a dit, Seigneur, je suis juste en train de faire ton projet. Et donc, c'est toi qui es le garant. C'est toi qui es le porteur. C'est toi qui prends soin de cela. On m'a raconté une histoire d'un jeune homme d'origine ghanéenne qui était ultra zélé pour le Seigneur. Et puis son père l'a envoyé faire des études en Occident, en Angleterre. Et quand il arriva en Angleterre pour faire ses études, au lieu de faire les études, je ne sais plus lesquelles, c'était de médecine ou plus, je ne sais plus. Et il arrivait, il a décidé de faire une école biblique. Au lieu de faire des études pour lesquelles son père l'avait envoyé à l'étranger. Son père lui a dit, moi j'étais envoyé là pour étudier et pour faire la médecine. Ou je ne sais plus quelle étude c'était. Si tu décides d'aller faire les études biblique, tu oublies mon soutien financier, tu oublies mes ressources, tu oublies ce que j'ai prévu te donner. Parce que là, tu t'engages dans ta propre voie. Le jeune homme s'est quand même engagé dans cette voie. Et puis, il n'avait plus le virement mensuel pour payer son loyer, pour payer ses finances. Et sa vie a commencé à devenir extrêmement difficile et extrêmement complexe. Même s'il était hyper zélé, son père pragmatique, il dit, je t'ai envoyé pour faire quelque chose de particulier, tu n'es pas en train de le faire. Tu prends soin de toi et tu vas de ta propre initiative. Et au point où c'était tellement compliqué de survivre à ce niveau-là, qu'il a décidé d'arrêter et de reprendre les études que son père lui avait demandé de faire. Et quand il a décidé de reprendre les études que son père lui a demandé de faire, alors son père a décidé de reprendre soin de lui et de veiller sur lui. Et à la fin de ses études, son père a dit, bon, maintenant que tu as fini, maintenant tu peux aller faire les études bibliques. Et il a financé les deux. Son père a décidé de financer ce pour quoi il l'avait envoyé. Et Dieu nous a envoyés ici sur terre. Comme ce père-là, il décide de financer, de pourvoir et de veiller dans ce pour quoi il nous a envoyés. Et si on veut décider d'aller là où on veut, là où on aime, même si c'est trop cool, mais que Dieu ne nous y a pas envoyé, alors on aura tous les problèmes qu'on voudra avoir. On pourra demander à Dieu de venir dans notre volonté, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. On ne vient, on n'attire pas Dieu dans ce que nous on veut. Nous, on entre dans ses projets à lui. On décide de vivre ses projets à lui. Et le problème de beaucoup de chrétiens, et même parfois de communautés d'église, c'est qu'on entre dans les projets dans lesquels Dieu ne nous a pas envoyés et Dieu ne nous a pas appelés. Et donc, on n'a pas la provision, l'accompagnement et le backup de Dieu. Je ne peux pas, en tant que prédicateur, prêcher le message que j'aime et que j'ai envie. Je prêche que le Seigneur m'invite à prêcher. Parce que je sais que là, il est là pour soutenir ce que je suis censé faire. Nous sommes des voyagers, des voyageurs plutôt, sur cette terre. Voyager, c'est un peu bizarre comme phrase. Mais nous sommes des voyageurs sur cette terre. Et chaque fois qu'on réalise que les projets pour lesquels on avance, dans lesquels on avance, sont les projets de Dieu et non pas les nôtres, alors Dieu veille sur nous. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai. Ça veut dire que c'est lui qui me conduit. La caractéristique de quelqu'un qui est conduit réellement par Dieu, c'est qu'il ne manque de rien parce qu'il marche dans les plans de Dieu. Mais si je suis mon propre berger, alors je veille à ma propre subsistance. Mais quand Dieu est à l'origine des choses, Dieu prend soin de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je me dis, Seigneur, est-ce que je suis en train d'accomplir ton projet? Est-ce que c'est ton projet? Est-ce que je suis en train de m'avancer dans ce projet? Est-ce que c'est ton désir à toi ou est-ce que c'est le désir que j'ai envie de faire et ce qui me fait du bien et ainsi de suite? Là, c'est le premier principe qu'il est important, la première fondation qu'il est important de noter. La seconde qu'il est important de noter, qu'on voit dans ce passage, c'est que les projets de Dieu se placent dans une continuité. Et ça, c'est important de le noter, c'est un peu subtil. Les projets de Dieu se placent dans une continuité. Je vais demander à, je ne sais pas si c'est Serge qui l'a passé à la diapo suivante. Il est dit au verset 1, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils d'un homme, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Les projets de Dieu, et ça c'est important de le noter, se placent toujours dans une dimension de continuité. Avant Josué, il y a eu Moïse. Avant Moïse, il y a eu Joseph. Avant Joseph, il y a eu Israël. Avant Israël, il y a eu Jacob. Avant Jacob, il y a eu Isaac. Je ne sais plus si je confonds. Et avant Isaac, il y a eu Abraham. Et avant Abraham, il y avait quelque chose. Il y avait. Vous voyez, cette partie de la Bible qu'on n'aime pas trop lire, qu'on appelle les généalogies, et quand on arrive, on saute très vite. Dieu prend de l'importance à toutes les générations parce que c'est une histoire de continuité. Josué ne surgit pas juste de nulle part et fait ce qu'il a envie de faire. C'est qu'il y a eu des gens avant lui, il y a eu des personnes avant lui, il y a eu des choses avant lui. Et Dieu agit toujours de manière continuelle et de manière perpétuelle. Et si Dieu prend le temps de faire la généalogie de chaque personne, c'est pour dire que chaque personne compte. Nos ascendants comptent, aussi bien charnels que spirituels. On peut apprendre beaucoup de la vie de quelqu'un en lisant sa généalogie. Parce qu'on voit une histoire parfois qui se décrit. On voit une trace parfois qui se décrit. On voit quelque chose de particulier. Quand vous regardez la généalogie de Jésus, vous apprenez beaucoup de choses sur la personne de Dieu. Vous vous rendez compte qu'il y a des prostituées, il y a arabes. Non, il y a arabes, l'étrangère. Il y a des prostituées, il y a des juifs. Il y a des étrangers. On voit un Dieu de grâce. On voit un Dieu qui agit de manière extraordinaire. Et c'est important de se dire que dans les projets dans lesquels Dieu me place, Dieu ne démarre pas toujours exactement avec moi. Il a commencé à travailler depuis très longtemps. Il a commencé à placer d'autres situations, d'autres personnes autour de moi. Dans le travail dans lequel je prends la responsabilité, même si tu es entrepreneur, il y a forcément eu d'autres entrepreneurs avant toi. Il y a eu d'autres responsables avant toi. Il y a eu d'autres mariages avant le tien. Il y a eu d'autres succès avant le tien. Il y a eu d'autres échecs avant le tien. Et c'est important de se dire que tout ce que Dieu nous amène à faire, Dieu les place dans une histoire de continuité. Avant Josué, il y a eu Moïse. Et c'est important, si on coupe la vie de Moïse de la vie de Josué, il y a quelque chose qui marche pas et il ne pourra pas entrer dans les plans de Dieu s'il ne considère pas qu'il est dans une dimension de continuité de ce que Dieu a prévu et ce que Dieu a commencé de faire. Quand vous regardez l'histoire de l'Église, en général, vous voyez la continuité de Dieu depuis les actes des apôtres, depuis la création du monde. On voit Dieu de la Genèse à l'Apocalypse écrire une histoire et faire des liens les uns après les autres. Et parfois nous rappeler à retourner vers les anciens chantiers parce que vous êtes éloignés. Et donc c'est important de dire, Seigneur, dans ce parcours, dans ce projet dans lequel je suis en train de rentrer, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu as bâti avant? Qu'est-ce que tu as établi avant? On n'a pas tous la grâce de poser des fondements. Parfois d'autres ont posé des fondements. Imaginez-vous chaque fois qu'on fait une maison et toute nouvelle personne vient refaire les fondements. J'imagine, on prendra une éternité pour construire la maison. Ce beau bâtiment qui est là, imaginez, il y a des fondements qui ont été mis là des années, du point de vue local. Et imaginez que le charpentier, il arrive et il commence à remettre les fondations. Et donc, dans cette continuité, est-ce que je fais partie de celui qui met les fondements? Est-ce que je fais partie de celui qui met plutôt les briques au-dessus? Est-ce que dans les projets dans lesquels Dieu m'appelle, Dieu me conduit, est-ce que je fais partie plutôt de ceux qui couvrent au-dessus? Est-ce que je fais partie de ceux qui vont mettre les portes? Est-ce que je fais partie de ceux qui vont mettre du chauffage? Ou de la moquette? Ou des chaises? Dieu construit dans la continuité. Et c'est important, lorsque Dieu nous appelle et que Dieu nous établit quelque part, de dire, Seigneur, quel est mon travail ici? Ou bien surtout, qu'est-ce qui a été fait avant? Parce que lorsqu'on réalise ce qui a été fait avant, on ne se trompe pas de travail. Notre église a un peu plus de 30 ans. Et en mai, il y aura le passage de relais, le passage d'orge, j'en ai parlé déjà. Moi, je ne peux pas, en tant que pasteur, vouloir revenir refaire ce qui a déjà été fait. Ce serait stupide de ma part. Et surtout, ce serait faire ce que Dieu ne m'appelle pas à faire. Si les fondements étaient posés, alors peut-être Dieu demande de mettre autre chose. Si les murs ont été mis, alors Dieu demande de faire autre chose. Et donc c'est important dans chaque fois, dit Seigneur, qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Quelles sont les prophéties que tu as déjà communiquées à ce groupe de jeunes, si tu es responsable de groupe de jeunes? Quelles sont les prophéties que tu as déjà données? Vous vous rendez compte, parfois pour chercher la volonté de Dieu, pour ceux qui ont un peu d'expérience, ce n'est pas toujours aussi simple. Ce n'est pas directement, tu dis, Seigneur, parle et un livre s'ouvre et puis tout s'écrit avec toutes les pages de ta vie. Non, parfois c'est compliqué, Seigneur, quelle est ta volonté? Et parfois des gens, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont bossé dur et ils ont reçu la volonté de Dieu. Et nous, on arrive, on peut gagner du temps en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu as déjà dit? Parce que si Dieu a déjà parlé, ben, je peux juste rentrer dans ce qu'il a fait. Et peut-être jeûner plutôt pour autre chose, pas pour recevoir sa volonté, peut-être pour travailler. Et donc c'est important dans les plans que Dieu nous donne de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as déjà accompli? Et malheureusement, moi je vois beaucoup d'erreurs dans ce domaine-ci. Et parfois beaucoup de mauvaises compréhensions. Seigneur, qu'est-ce que tu as déjà fait? Même pour ceux qui sont innovants, pour ceux qui sont pionniers, pour ceux qui démarrent de nouvelles choses, il y a toujours quelque chose de fait avant. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît l'histoire de Tesla? L'histoire de Tesla et de Thomas Edison. Vous connaissez Thomas Edison? On le considère un peu comme le fondateur de l'électricité, du courant, je crois, continu. Et Thomas Edison, c'était un Américain qui a découvert, on va dire, pour raccourcir l'ampoule et les lampes incandescentes, la lumière. On dit, waouh, et ce qui paraît pour nous aujourd'hui complètement anodin. Thomas Edison était l'un des pionniers. Il paraît que ce n'était pas un ultra scientifique, mais c'était un très bon homme d'affaires. Donc il savait comment vendre son business. Et il y avait un jeune homme qui s'appelait Tesla, je crois qu'il était d'origine norvégienne ou d'Europe du Nord. Lui, il était passionné par ça. Il était passionné par les travaux de Thomas Edison. Et ce qu'il va faire, pendant très longtemps, il va être... Je pense qu'il va faire des études poussées dans son pays d'origine. Après, il va réaliser qu'il y avait à Paris une antenne des bureaux de Thomas Edison. Il va venir s'installer à Paris et il va travailler pour Thomas Edison. Et ensuite, après avoir travaillé Thomas Edison, il y aura une opportunité pour aller aux États-Unis et donc de rencontrer sa célébrité. Et Tesla va aller aux États-Unis pour rencontrer Thomas Edison. Et par contre, malheureusement, à sa rencontre de son idole, il va être complètement dépité parce qu'il va découvrir qu'il n'est pas aussi l'idole qu'il aimerait, mais il va quand même aspirer à lui et il va être à son école. Il va apprendre jour après jour auprès d'Edison. Il va travailler avec lui. Mais il y avait un problème avec le modèle de Thomas Edison, c'était la capacité de répandre l'électricité à une très grande population, si je résume comme cela. Et donc, sa solution, c'était le courant continu. Et il va commencer à faire des recherches. Lui, du coup, il avait un modèle qui fonctionnait, il y avait de l'électricité, mais qui était limité. C'était impossible d'avoir de l'électricité, par exemple, dans tout Paris ou dans tout Chicago. Je crois que c'était Chicago, la ville. Et ce que Tesla va faire, il va trouver une méthode, un moyen, en utilisant le courant alternatif, pour pouvoir renouveler l'énergie et donc résoudre le véritable problème. Mais Thomas Edison, son idole, ne va pas... Valider cela, il va le rejeter, il va le mettre un peu loin, et il va connaître des galères, Tesla. Et pour plusieurs scientifiques, l'une des personnes qui était beaucoup plus génie, qui a vraiment révolutionné le monde, parce que c'est après qu'on aura les barrages électriques, qu'on aura toutes ces dimensions d'électricité qui vont répandre l'énergie beaucoup plus loin. Et c'est plus tard, pour certains scientifiques, Tesla a fait beaucoup plus qu'Edison. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire-là? C'est que finalement, on ne peut pas dissocier ce Tesla qui a apporté une dimension nouvelle de cet Edison qui a commencé à travailler. Prenez l'histoire de l'ordinateur. Les premiers ordinateurs, c'était des maisons. Aujourd'hui, ils sont dans notre téléphone. Et donc, si aujourd'hui vous faites de la science, vous faites des cours de science et tout, et que vous décidez de reconstruire le premier ordinateur, bon, vous allez mettre un peu de temps. Mais si par contre vous vous appuyez sur les ressources qui ont été faites avant, alors vous allez beaucoup plus loin et vous allez beaucoup plus vite. Et dans les projets de Dieu, il y avait Moïse avant. Et c'est important de se dire que Seigneur, j'entre dans la continuité de ce que toi tu as fait et j'accomplis exactement ce que toi, tu as prévu de faire. Et en faisant cela, vous gagnez du temps, mes amis. Et vous rentrez dans les projets de Dieu. La troisième dimension qu'on voit et qui est liée avec ce deuxième point, c'est que les projets de Dieu, il faut nous apprendre à obéir à la parole et au principe de nos pères, entre guillemets. Il est dit au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Verset 5, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Verset 7, « En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » À plusieurs reprises, et lorsque vous étudiez la vie de Josué, vous vous rendez compte qu'une grosse partie de son travail consistait à accomplir ce que Moïse avait dit et à rester fidèlement dans les voies que les pères avaient commencé à établir. Et nos pères spirituels ou même charnels ou ceux qui ont joué ce rôle de repère et important dans nos vies, c'est important de regarder à ce qu'ils ont fait et d'apprendre de leurs leçons. Regardez leurs succès et regardez leurs échecs. De regarder, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Comment ils ont fait pour avancer? Comment ils ont fait? Quels étaient leurs plus grands succès, leurs plus grands échecs? Afin d'apprendre de ce qu'ils ont fait et d'avancer avec force et avec grâce. Il y a un proverbe que vous connaissez, un homme averti en vaut parce qu'il a appris de certaines choses. Et l'un des moyens pour réussir, c'est pas de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as déjà fait au travers de nous? Moi, j'appelle souvent ma mère pour lui dire, mais comment tu as fait avec 6 enfants? Comment tu as fait? Ou bien à ceux qui étaient encore beaucoup plus, comment vous avez fait avec 12? Vous n'aviez pas de crédit conso en plus? Vous n'aviez pas tous ces besoins? Vous n'aviez pas, comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour affronter ces problèmes, cette épidémie, cette pandémie? Comment as-tu fait pour gérer tout ton emploi du temps qui paraissait compliqué? Comment as-tu fait? Parce que c'est comme ça que la sagesse, elle vient. En réalisant, Seigneur, qu'as-tu fait? Et Josué, c'est un homme qui a appris au pied de Moïse. Il alla à la montagne avec Moïse. Il a appris à prier avec Moïse. Il a appris à entendre la voix de Dieu avec Moïse. Il a appris à combattre dans la vallée avec Moïse. Il a appris auprès des gens. Montre-moi où tu as appris, et je te dirai qui tu seras. Montre-moi tes pères, et je te dirai qui tu seras. Montre-moi ton église, ou ce que tu fréquentes, ce que tu écoutes, et je pourrai te dire ce que tu seras. Parce qu'on est, on devient vraiment ce qu'on a reçu. Alors soyons sages, mes amis. Dieu place dans nos vies des hommes et des femmes qui ne sont pas parfaits, spirituels, des gens qui ont eu des expériences extraordinaires et qui ont vécu quelque chose de puissant. Moi, j'aime beaucoup les personnes âgées pour ces raisons-là. Que ce soit les femmes ou les hommes, j'aime m'asseoir avec eux et dire, mais écoutez leurs témoignages, écoutez leurs histoires. Si vous voyez quelqu'un qui a 40 ans de vie chrétienne, il en a vu des choses quand même passer sous le pont, hein. Il en a vu des choses. Il a vécu des choses. Si vous voyez quelqu'un qui a construit une entreprise pendant des années, il en a vu des choses. Si vous voyez un pasteur qui a 30 ans de ministère ou 40 ans de ministère qui vous dit, ce chemin, je le connais, je sais où il mène. Réfléchissez à deux reprises avant de dire que tu n'as rien compris à la vie. Parce que peut-être Dieu est en train de nous conduire ainsi. Et on voit que Josué a eu du succès en obéissant à ce que Moïse lui a dit. Soyons sensibles à cette grâce-là, parce que Dieu veut nous permettre de gagner beaucoup, beaucoup de temps. On peut gagner du temps en regardant à ce que Dieu a placé autour de nous. Le quatrième principe pour entrer dans les projets de Dieu, en termes de fondement, le quatrième fondement, c'est qu'il faut obéir à la parole de Dieu et aux principes de Dieu. Certes, il faut obéir à ce que Dieu met aux hommes, mais il faut obéir à Dieu. Josué 1, 8, ce passage que j'aime beaucoup et que plusieurs d'entre vous peut-être le connaissent, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est un verset que vous pouvez réciter et mémoriser par cœur. En plus, il est facile à mémoriser. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. J'avais une des personnes qui m'avait conduit, qui m'avait accompagné dans mes débuts de la foi chrétienne. Il s'appelait Théodore Sakamo et quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. Il me disait souvent, quand tu lis ce passage, qu'est-ce que tu comprends? Il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Qu'est-ce que tu comprends? Je dis, ah, je ne sais pas. Il dit, ça veut dire que le jour et la nuit pensent à la parole de Dieu. C'est aussi simple que cela. Médite-la, fais de la parole de Dieu l'objet de tes pensées jour et nuit. Fais de sa parole, fais de ses projets, fais de ses principes, fais de ses ordonnances, fais de ses avertissements, fais de ses orientations l'objet de tes pensées jour et nuit. Pourquoi? Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Lorsque vous pensez régulièrement à quelque chose, vous finissez par le faire. Vous savez, c'est très compliqué et quasiment impossible que vous pensez tout le temps à lire la parole de Dieu et à méditer à ça, vous adorez Dieu, vous louez Dieu, vous pensez constamment au Seigneur et vous vous levez 2 minutes après, vous allez commettre l'adultère. Cette parole-là va vous convaincre un peu. Et plusieurs personnes, quand on regarde un peu, il y a des Américains qui ont fait des études pour voir tous ceux qui, à un moment donné, ont grandi dans le Seigneur et après, ils sont tombés, ils sont éloignés de Dieu. Généralement, ils donnent des éléments, les critères. Vous savez, c'est important d'étudier aussi ceux qui sont tombés. Pas pour dire qu'ils n'étaient pas bons, mais pour savoir que celui qui est debout prenne garde. Et donc, quand on étudie, on se rend compte que parfois, il y a un élément qui vient, c'est que parfois, ils ont négligé leur culte personnel. Dieu ne les parlait plus tous les matins. Pour certains, ils étaient trop simplement imbus de leur propre personne et il y a d'autres éléments, mais ce qui me marquait, c'est qu'ils ne méditaient plus régulièrement sa parole. Tu vas rarement passer un temps d'adoration pendant 1 heure juste avec Dieu dans ta chambre et après te lever, aller tuer quelqu'un. Non. Non. Mais au contraire, cette parole-là va t'amener à faire ce dont tu pensais réellement. Mais par contre, tu commences à penser à la jolie fille que tu as vue hier, tu commences à penser ensuite à toutes les vidéos que tu as regardées sur Internet, et tu commences à dire, c'est pas si grave que ça. Et du coup, vous savez, de fil en aiguille, une pensée, vous savez, de toile d'araignée, votre pensée commence à vagabonder, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, tu commences à dire, finalement, c'est pas si grave que ça. Ben, de toute façon, je ne suis pas le seul chrétien à le faire. Et ainsi de suite, tu médites autre chose et ce que tu médites va commencer à porter du fruit. C'est pour ça que Jésus dit que le plus important, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce qui est dans votre cœur. Parce que tous les péchés, les meurtres, les idolâtres, la fornication, toutes ces choses-là viennent de notre cœur. Mais dans ce que tu veilles sur ton cœur et que tu l'entretiens régulièrement par sa parole et par ses promesses, alors tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. Que la parole de Dieu soit l'objet sans cesse de vos pensées. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Nourrissez-vous des cantiques, des psaumes, de la louange. Nourrissez-vous de la prédication, des messages. Entretenez votre cœur intérieur et toute votre vie découlera simplement et naturellement. Méditez cette parole jour et nuit. Le psaume indique que celui qui médite cette parole jour et nuit, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait réussit, il porte du fruit en chaque saison parce qu'il est planté près de la source. Lorsque tu as fait 5, 2 fois tu n'es pas venu à l'église, 3 fois, et puis tu commences à entretenir une autre chose, que peut-être ce n'est pas si important que ça l'église le dimanche matin, alors tu nourris autre chose aussi. Et à un moment donné, tu vas t'éloigner. J'ai vu tellement de fois cela. Mais entretiens-toi régulièrement par sa parole. Méditer sa parole, c'est y penser régulièrement. Je dis, Seigneur, oh, qu'est-ce que j'aime ta parole. C'est-à-dire, et ce n'est pas forcément étudier de manière énorme, mais c'est juste, je veux juste prendre peut-être un psaume. Il y a des gens qui lisent les psaumes tous les jours. Billy Graham lisait 5 psaumes chaque jour. Chaque jour, il dit que chaque jour, il lisait 5 psaumes. Et donc, du coup, si vous voulez être sage, lisez les proverbes tous les jours. Vous allez, au moins, vous passerez pour sage, vous allez les citer tout le temps. Et il dit, entretenez-vous de cela. Et Dieu vous donne de la sagesse comme ça. Denis Morissette, qui était venu à cela quelque temps, disait que lui, pareil, il médite régulièrement les psaumes, les proverbes. Et Dieu vous donne de la sagesse ainsi. Entretenez-vous par des psaumes et méditez sa parole. Le cinquième fondement, qui est important, c'est le courage et la force que viennent de Dieu. Et là, on entre dans du concret, on entre dans du dur. Il dit, verset 6, et ça, c'est l'une des choses qui est frappante. Dans un seul chapitre, à 8 reprises, et Dieu lui-même, à 3 reprises, va répéter ses paroles à Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 6. Verset 8, verset 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la parole, selon toute la loi de Moïse, mon serviteur. Verset 7 encore, ne t'ai-je donc pas donné cet ordre quand tu l'auras oublié, fortifie-toi et prends courage. Et après, ce seront les hommes plutôt qui vont dire, fortifie-toi seulement et prends courage. Pour entrer dans les projets de Dieu, il faudra développer ta force et ton courage. Il faudra que tu deviennes fort et que tu deviennes courageux. Pour plusieurs raisons. Deviens fort parce que c'est toi que Dieu a choisi pour accomplir le projet pour lequel il t'appelle. Parfois, on aimerait tellement que ce soit quelqu'un d'autre. Seigneur, me voici, mais envoie-le. Seigneur, je ne sais pas parler, tu sais. Lui, il parle mieux que moi, mais sers-toi de lui. Parce qu'on a peur. Seigneur, toute autre personne, sauf moi. Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce don? Ça me crée trop de problèmes. Pourquoi tu me donnes ce don de prophétie? Je vois des choses que je n'ai pas envie de voir. Pourquoi tu me donnes ce don d'évangéliste? Je suis dans les métros, j'aurai la honte à parler de Jésus à quelqu'un, parce qu'il va me dire que toi, tu es un timbré. Pourquoi tu me donnes ce truc? Seigneur, mais je veux te dire que fortifie-toi parce que Dieu a choisi ta personne pour accomplir le projet qu'il va accomplir. Il t'a choisi toi. Il a besoin de toi et il t'a localisé. Il a dit, c'est toi qui feras entrer ce pays dans la terre promise. On aimerait tellement ne pas le faire. On aimerait tellement que c'est quelqu'un d'autre qui le fasse. On aimerait tellement voir les gens qui sont plus talentueux que nous, qui sont plus doués que nous, qui sont plus compétents que nous, qui sont meilleurs que nous. Mais tu sais, dans ton cœur, Jésus a dit, c'est toi. Et tu es en train de trouver des excuses. Tu dis, non, Seigneur, je ne sais pas parler. Il dit, c'est moi qui ai fabriqué la bouche. Je dis, Seigneur, non, je n'ai pas assez de compétences. C'est moi qui donne les compétences. Seigneur, je n'ai pas assez de temps. Je suis le maître du temps. Seigneur, trouve quelqu'un d'autre. Ça y est, c'est toi. Je suis en train de te parler à toi qui est en train de trouver les excuses là. Seigneur, tu vois, j'ai ceci, cela, mais non. C'est toi que j'ai choisi. Il dit, fortifie-toi car c'est toi qui mettras ce pays en possession. C'est toi qui feras cela. C'est toi qui éduqueras cet enfant. Seigneur, je n'ai pas assez de force, de capacité, mais c'est toi que j'ai choisi pour cet enfant. Donc c'est toi qui vas t'en occuper. C'est toi qui vas t'occuper de ces jeunes-là. C'est toi qui vas le faire. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Seigneur, ce travail, il y a trop de pression. Oui, mais c'est toi. Il y a trop de responsabilités. Je suis avec toi. C'est toi que j'ai choisi. Alors, mon ami, lève-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Et avance, parce que Dieu est avec toi. Il dit, fortifie-toi et aie bon courage. Première raison pour laquelle Dieu nous demande de nous fortifier, c'est parce que c'est nous qui l'a choisi. La deuxième chose, fortifie-toi pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Parfois, c'est compliqué de mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut de la force pour se lever et obéir fidèlement à la parole de Dieu. Il faut dire, Seigneur, parce que parfois, la parole de Dieu dans les circonstances, c'est compliqué de l'obéir. Mais Seigneur, je vais rester sans compromis. Parce que ce n'est pas facile, il faut être fort pour décider d'obéir à la parole de Dieu. Il faut être fort de se dire, Seigneur, lève-toi et parle. Moi, qui suis devant vous aujourd'hui en train de vous prêcher, on me l'aurait dit avant, j'aurais dit non. savez, les excuses que je donnais tout à l'heure, là, c'est parce que ça me parle. Moi, je n'ai pas choisi de prêcher. Je vous rappelle toujours qu'il y a de cela 6 ans, ça fait 6 ans que je suis marié, dernier entretien de préparation au mariage, dans le bureau du pasteur Georges Michel, je lui ai dit, je ne serai jamais pasteur. Il dit, ok. Mais le Seigneur a travaillé. J'aurais voulu que ce soit quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus doux. Parce que je voyais le pasteur comme doux, gentil, bon et tout. Bien les choses, moi, ça ne me parlait pas, ça. Je voulais autre chose. Moi, je voulais juste foncer comme ça et puis voilà. Mais mon ami, si tu ne veux pas te tenir et être fort, peut-être tu passeras à côté du pays que Dieu te promet et de cette terre que Dieu te promet. Il dit, fortifie-toi pour obéir à sa parole. Parce que parfois, c'est compliqué dans cette situation de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est compliqué de parfois, on aime que tous les gens aiment ce qu'on fait. Mais non, loin de là. Fortifie-toi et prends courage. Mets-toi à part pour Dieu. Si Dieu dit prie, fortifie-toi et prie. Moi, je me lève souvent tôt pour prier. Ce n'est pas que je n'aime pas mon lit. J'aime dormir aussi. J'aime me reposer. J'aimerais faire tellement d'autres choses. J'aimerais ne pas être parfois le leader qui conduit certaines choses. J'aimerais être aussi m'asseoir et puis on me conduit et puis je fais les choses. Mais Dieu dit, fortifie-toi et obéis à ma parole et fais-le. Et lorsque tu vas sortir de la barque, tu vas mettre ton pied sur cette eau dont tu as peur de t'enfoncer, de t'enfoncer, et bien tu vas découvrir que tu es en train de marcher sur l'eau. Et parfois on reste toute notre vie dans la barque parce qu'on a peur de se noyer, alors que Dieu avait prévu de nous faire marcher sur les eaux. Fortifie-toi et obéis à sa parole. Ensuite, il dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Mes amis, il y a des géants dehors, parce qu'il va entrer dans un territoire qui est possédé par des gens, ou bien qui est habité, qui est occupé par des personnes, par des géants. Par des Hittites, par des Galanites, on en verra beaucoup plus tard. Il y a des géants sur votre terrain premier, hein, mes amis. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile de te battre pour ton couple, de te battre pour ta famille, de te battre pour ton mariage, ou de te battre pour les projets de Dieu, ou de te battre pour être un chrétien solide. Ce ne sera pas facile. Il y aura des géants. Mais Dieu dit, écoute, ne les crains point. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'affronter les problèmes. N'aie pas peur d'affronter la solitude. N'aie pas peur d'affronter les incompréhensions. N'aie pas peur, mais sors de cette barque et marche avec Jésus. Avec la force qu'il te donnera et qu'il te communiquera. N'aie pas peur. Fortifie-toi et deviens un chrétien solide. Un chrétien sur qui on peut compter. Deviens un homme de prière. Une femme de la parole de Dieu. Une femme qui aime le Seigneur. Une femme intègre. L'apôtre Paul dira à Timothée que « Exerce-toi à ton don afin que tes progrès soient visibles de tous. Fortifie-toi et prends courage. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Travaille et bâtis ta vie pour être quelqu'un d'intègre, de sérieux, de rempli du Saint-Esprit et de passionné de Jésus. Sois un homme sur qui on peut compter au travers de la parole de Dieu. Sois quelqu'un de fort spirituellement parlant. Peut-être toute ta famille compte sur toi. En tant qu'un homme, moi je dis les hommes, nous on a une pression de malade. La Bible dit que tu sois, que je t'établis comme la tête, mais la tête c'est pas toujours bien. Parfois c'est bien de suivre. Et tu es comme le sacrificateur de ta maison. Tu veilles sur ta famille, tu veilles. Tes enfants attendent de voir un exemple au travers de toi. Ton épouse attend peut-être de te suivre dans certaines directions. Et tu as besoin d'être un homme fort, pas fort avec la force physique, mais fort intérieurement. Parce que tu es rempli de l'amour et de la grâce de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Sois quelqu'un qui entend la voix de Dieu et qui court après le Seigneur. Le sixième principe, le sixième fondement qui est important, j'avance un peu, c'est la présence de Dieu avec nous. Il dira, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Car l'Éternel, verset 7, ton Dieu est avec toi. Verset 17, veuille seulement ton Dieu être avec toi. Votre succès dans le terrain promis, c'est la présence de Jésus à vos côtés. C'est la présence de Dieu à vos côtés. Il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu à nos côtés. Est-ce que Dieu est dans cette histoire? Est-ce que le Seigneur est avec moi dans ce projet? Est-ce que le Seigneur est avec moi dans cette nouvelle direction que je donne? Est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce qu'il me conduit? Est-ce qu'il veille sur moi? Est-ce qu'il est là dans cette décision que je suis en train de prendre? Parce que le fait que ce soit cool ne suffit pas. Le fait que ce soit bien ne suffit pas. Le meilleur endroit au monde, c'est être avec Jésus. Que je sois dans la brousse de, je ne sais pas, peut-être de Madagascar ou dans la campagne de Madagascar, si je suis avec Dieu, je suis au meilleur endroit au monde. Que je sois à New York ou à la Maison Blanche et que je suis avec Dieu, je suis à ma place. Que je suis à Évry et je sais que je suis avec Dieu ici, je suis à ma place. Le meilleur endroit au monde, mes amis, ce n'est pas là où on s'en coule, là où il y a la plage, là où il n'y a pas de coronavirus, là où tout se passe bien. Ce n'est pas là-bas le meilleur endroit au monde. Le meilleur endroit au monde, c'est là où Jésus est avec nous. C'est là où sa présence est avec nous. C'est là où sa présence est là. Il dit, je serai avec toi. Si Dieu est avec toi, alors tu réussiras. Si Dieu est avec toi, alors ce que tu toucheras réussira. Si Dieu marche avec toi, alors il accomplira des succès, des prodiges et des choses extraordinaires. La question que tu dois te poser par-dessus tout, c'est est-ce que le Seigneur est avec moi dans cette histoire? Dans ce déménagement, dans ce changement, est-ce que Jésus est là? Parce que même si je suis à 1 heure, 2 heures de mon boulot, et que je sais que Jésus est avec moi pendant ces 2 heures de trajet, vaut mieux que Jésus soit avec moi pendant 2 heures de trajet que je suis à 15 minutes et qu'il n'est jamais avec moi. Et donc la question, ce n'est pas tant le temps de trajet, c'est est-ce que c'est Jésus qui m'a mis là? Est-ce que c'est Jésus qui est avec moi? Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. La chose la plus importante, c'est Jésus est-il présent? La présence de Dieu vaut tout, mes amis. Et on verra beaucoup plus loin dans l'histoire de la conquête du terrain promis, c'est que lorsque les Israélites vont faire quelque chose qui va éloigner la présence de Dieu, eh bien, ils vont avoir des défaites lamentables. Et chaque fois qu'ils vont revenir à lui, ils vont avoir du succès. Chaque fois qu'ils vont faire des compromis, ils vont oublier d'invoquer Dieu, comme c'est le cas avec les Gabaonites, ils vont perdre la grâce de Dieu. Ils vont entrer dans des situations, ils vont faire des alliances qu'ils n'auraient jamais dû avoir et qui auront des conséquences jusqu'au temps de David. Les décisions que vous prenez aujourd'hui auront des conséquences peut-être sur les 10 prochaines années de votre vie. Et donc d'où la criticité de se dire, est-ce que Jésus est dans cette histoire? Moïse refusera de suivre Dieu si Dieu ne les accompagnait pas. Vous vous rappelez, dans ce passage, dans le désert, à un moment donné, le peuple d'Israël va s'éloigner de Dieu. Et Dieu va dire, écoute, il va être en colère, il va dire, Moïse, quitte de là, je vais détruire ce peuple. Et je vais faire de toi une nouvelle personne. Moïse va dire, écoute, moi je ne veux pas cette histoire. C'est toi qui as choisi ce peuple, c'est toi qui vas le conduire. Il va dire, écoute, maintenant, bon, tu iras, mon ange ira avec toi. Mais moi, je resterai là. Moïse a dit, si ce n'est pas toi qui es avec moi, je ne bouge pas d'ici. Tant que tu n'es pas avec moi, je reste sur place. Nous qui aimons tout le temps le changement, parfois il vaut mieux rester sur place avec Jésus que de changer sans Jésus. Et donc la chose la plus importante, c'est Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Vaut mieux rester célibataire avec Jésus que marié sans Jésus. Amen, il n'y a pas d'amen là. Vaut mieux la présence de Dieu. Ce n'est pas négociable, mes amis. Ce n'est pas négociable. Samson en a payé le prix. Il croyait que Dieu était toujours avec lui et puis à un moment donné, Dieu l'a abandonné. Il croyait que Dieu était toujours avec lui et il a payé le prix. Lorsque Dieu est avec nous, et ça c'est la dernière chose qu'on voit dans ce passage, c'est qu'on a la confiance des autres. Parce que la confiance est accordée. Ils répondirent à Josué en disant, parce que pour mettre un peu le contexte, il y a deux tribus édémiques qui, pendant le séjour, ou bien le parcours pour aller dans la terre promise, ils vont trouver une terre qui est juste extraordinaire. Ils vont dire à Moïse, écoute Moïse, la terre qui est ici, elle est très bien pour nos familles, pour nos tribus, pour notre bétail. Est-ce que tu peux nous donner cette terre-là? Et ensuite, Moïse va dire, écoutez, si vous promettez d'accompagner tous les autres tribus, les huit autres tribus, si vous acceptez de les accompagner jusqu'à ce que tout le territoire soit conquis, alors vous pourrez revenir ici. Donc il a accepté de leur donner une tribu, de leur donner un territoire avant le partage du butin, si vous voulez. Et plus tard, maintenant, quand Josué va les parler, il va leur dire, écoutez, est-ce que vous voulez bien accomplir la promesse que vous avez faite à Moïse et donc de venir avec nous pour aller conquérir le territoire? Il va dire, écoute, Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il est avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commandes sera puni de mort. C'est radical. Hein? Donc, soit tu suis, soit tu meurs. C'est clair, pas de démocratie. Fortifie-toi seulement et prends courage. L'une des choses que Dieu vous donnera, et c'est un principe qui est important de mettre en place lorsque Dieu nous donne d'entrer dans des projets, c'est que Dieu nous donne la confiance des personnes. Ça peut arriver de manière exceptionnelle que vous soyez seul contre tous, mais dans ce cas-ci, Moïse, vous aurez besoin d'avoir l'appui des gens autour de vous pour entrer dans ce terrain promis. Parce que vous n'allez pas travailler seul. Vous n'allez pas accomplir les projets de Dieu seul. Vous n'allez pas avancer en rang dispersé. Et c'est important, le proverbe qui dit « Le salut se trouve par le grand nombre de conseillers. » C'est important d'avoir une oreille attentive. C'est important de dire « Est-ce que dans ce projet, est-ce que j'en ai parlé à une ou deux, trois personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce qu'ils me donnent leur accord ? Est-ce que j'ai leur assentiment ?» Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'identité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de volonté personnelle et que Dieu ne vous a pas parlé. Mais pour autant, c'est toujours important. Est-ce que j'ai une confiance accordée dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai une confiance accordée? Est-ce qu'on peut aller ensemble? Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce qu'on peut entrer dans ce terrain promis? Est-ce qu'on peut avancer dans ce champ-là? C'est pour ça que c'est important la bénédiction parfois des gens qui sont autour de nous. Moi, je vous conseille toujours d'avoir des personnes autour de vous qui pourront vous donner des conseils avisés, qui pourront vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Si vous voulez toujours les gens qui vont vous dire « Amen » à tout ce que vous voulez, vous allez peut-être vous diriger dans un mur sans vous en rendre compte. Mais pour réussir dans les projets que Dieu nous demande d'entrer, il faudrait des gens autour de vous qui vous donnent des conseils. C'est toute la réalité de l'Église. C'est toute la réalité du corps de Christ. On pourrait vivre notre foi tout seul, mais Jésus a mis un corps, une communauté de croyants, avec les dons répartis les uns aux autres, selon les compétences et les sensibilités de chacun. C'est pour ça que le ministère est reconnu par des pairs. Ce n'est pas que je décide un jour que je suis appelé au ministère et je fais tout ce que je veux. C'est qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose que Dieu a mis. Et dans la Bible, chaque fois qu'on voit un ministère établi, on voit qu'il y a la reconnaissance des pairs avec A, des autres personnes qui reconnaissent qu'on voit la grâce de Dieu. Non pas que ce sont eux qui donnent le ministère, mais ce sont eux qui reconnaissent. C'est pour ça qu'il y a un conseil d'anciens. C'est pour ça qu'il y a une équipe de responsables. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs. C'est pour ça qu'il y a des apôtres. C'est pour ça qu'il y a des parents, des amis, des confidents. Et avant de prendre une décision compliquée et difficile, si tout le monde te dit que ce gars que tu veux épouser, ce n'est pas la bonne personne, peut-être ne change pas radicalement, mais pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'ils le disent? Si nos amis qui nous aiment le plus et qu'on sait qu'ils nous aiment, donne un conseil avisé dans une situation, posons-nous la question, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous parler? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous interpeller sur quelque chose que je ne vois pas ou que je refuse de voir? Lorsque Dieu met des gens autour de nous, ce n'est pas pour qu'ils dominent nos vies, pour qu'ils contrôlent nos vies, mais c'est pour qu'ils nous donnent un regard différent des choses. Parce que les dieux m'ont dit, on est chrétiens entre nous, on peut se parler en vrai, on en a entendu tellement. Qui ne s'est pas encore trompé sur une parole de Dieu? Moi, je me suis trompé tellement de fois, au point où maintenant, j'ai fait beaucoup plus attention quand je dis « Dieu m'a dit ». Parce que Dieu peut me dire clairement, mais j'ai des filtres. où j'ai des choses bizarres qui se passent. On raconte l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, dans une église dans le sud, où un dimanche matin, quelqu'un donne une prophétie. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Tout comme Abraham a sorti le peuple d'Égypte, toi tu vas sortir ce peuple des difficultés et le conduire dans la terre promise. Et il y a un silence dans l'église. Il dit, non, ainsi parle l'Éternel, c'est pas Abraham qui a sorti le peuple d'Égypte, c'est plutôt Moïse. Il se corrige, donc on peut entendre la voix de Dieu, mais ayons l'humilité de reconnaître qu'on peut se tromper. Franchement, ayons l'humilité de le reconnaître. Ayons l'humilité de reconnaître qu'on peut, moi ça m'est arrivé dans des situations, et du coup je fais attention. Mais je sais aussi que Dieu me parle de manière claire et précise dans certaines situations. Ayons la foi nécessaire pour s'appuyer sur la parole de Dieu et l'humilité nécessaire pour reconnaître que Dieu peut agir différemment. Dieu veut nous conduire à entrer dans ses projets. Mais c'est important d'avoir des bonnes bases, d'avoir des bonnes fondations. Je vous invite à relire le livre de Josué, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, à relire ce passage-là. On va étudier ce passage pendant quelques temps et on va voir comment est-ce que Dieu, de chemin en chemin, nous permet de rentrer dans les terres promises. Mais reméditez sur ce passage-là. Dieu met des fondements, des bases pour que nous puissions avancer, rentrer dans la saison dans laquelle il nous donne. Et Dieu est un Dieu fidèle et il le fera. Ce qu'il a prévu, il accomplira. Amen. Je vous invite à vous lever et l'équipe de louanges à s'approcher. Amen. On va prier quelques instants. Je vous invite tous à vous lever. Peu importe comment Dieu vous a parlé, je vous disais au début de ce culte, chaque fois qu'on vient à l'église, on s'attend à ce que Dieu nous parle. Peu importe comment Dieu t'a parlé quelques instants, prends le temps et prie, dis Seigneur Jésus, parle-moi, peut-être par rapport à cette situation, peut-être tu as besoin de remettre en face devant Dieu cette situation, mais ouvre ta bouche quelques instants et parle-lui. Et parle-lui. Médite par rapport à ces paroles, par rapport à ces versets qu'on vient de partager ensemble. Et laisse encore le Saint-Esprit te parler. Dis Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ce matin? Sur quoi veux-tu attirer mon attention ce matin? Laisse l'Esprit de Dieu encore parler et convaincre ton cœur quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui nous interpelle, mais par-dessus tout, tu es le Dieu qui nous conduit dans la terre promise. Tu es le Dieu qui nous conduit vers de nouveaux horizons, aussi bien cette église, mon Dieu, que chacune de nos vies. Et par-dessus tout, tu es le Dieu qui nous amène dans le terrain promis et dans la terre promise. Peut-être tu es là ce matin, les yeux sont fermés et on prie simplement avec Jésus. Peut-être tu te rends compte que tu es loin de Dieu, tu n'as pas encore donné ton cœur. Les promesses de Dieu commencent par la nouvelle naissance, par le salut. Seigneur, j'étais loin de toi, je n'ai jamais réellement donné mon cœur à Jésus, je n'ai jamais fait, mais ce matin je veux le faire, je veux rentrer dans les projets de Dieu. C'est un projet d'éternité, c'est un projet de salut, c'est un projet de grâce. Si c'est ton cas ce matin, je veux seulement donner l'occasion, je ne sais pas, peut-être tu viens pour la première fois, j'en sais rien, et tu dis, Seigneur, ce matin, je veux te donner mon cœur. C'est ton cas, lève ta main, je veux prier avec toi. Tu dis, pasteur, je veux prier avec toi. C'est ton cas, tu lèves simplement ta main, je veux prendre le temps de prier avec toi. Tu ne l'as jamais fait. Peu importe si tu es la seule personne là, peut-être tu veux donner ton cœur, tu es dans une famille, mais tu n'as pas encore réellement donné ton cœur, Jésus. C'est ton cas, lève ta main, je prie avec toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ces mains qui se lèvent, qui ce matin décident de rentrer dans le projet que tu veux leur donner. Un projet de salut, un projet de délivrance, un projet d'éternité, Seigneur Jésus. Nous voyons, Seigneur, que ces hommes et ces femmes se tournent entièrement à toi, qu'il y a un avant et un après, qu'il y a un changement, que tu marques leur nom dans ton livre de vie et que l'éternité, Seigneur, leur soit réservée. Je te bénis, mon Dieu, pour cette vie. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux le faire. On ne peut rien fabriquer. Alors opère dans nos vies et conduis-nous dans les terres promises. Amen.